Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Planète Terre dans le studio 167 de la Maison de la Radio. Julie Bérissy et Jean-Guilain Meige nous accompagnent en régie. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 14h30 et vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Ouais. Planète Terre, l'émission de géographie de France Culture, vous propose d'appréhender aujourd'hui deux pays, le Liban et la Syrie, avec les méthodes et les concepts de la géographie. Une actualité éditoriale m'y invite, c'est la parution en kiosque du deuxième numéro de la revue Moyen-Orient, dont le dossier thématique est consacré au Liban. Alors pour guider nos pages, j'ai le plaisir d'accueillir trois géographes. Leïla Vignal, qui est chercheuse à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, qui est au téléphone depuis donc la Grande-Bretagne, Fabrice Ballanche, qui est maître de conférence à l'Université Lyon 2, et Michael Davy, professeur à l'Université François Rabelais de Tours. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Le Liban et la Syrie, alors ce sont deux pays qui sont très régulièrement évoqués dans les sujets d'actualité, plutôt sous l'angle de la science politique ou de la sociologie des relations internationales. Alors le point de départ de cette émission se veut assez simple, j'espère qu'il ne l'est pas trop. Qu'est-ce que la géographie contemporaine apporte à la connaissance de la Syrie et du Liban? Que nous apprend le décodage des dynamiques territoriales dans ces deux pays? Géographie au pluriel de la Syrie et du Liban, c'est donc le sujet de Planète Terre cette semaine.
الورد جميل لحبك مش جميل الجو خليل لهواك مش خليل.
Alors, pour commencer donc cette chanson de Yaz, le groupe donc de Yasmine Hamdam et de Mirouez, Michael Davy, est-ce qu'elle vous paraît évocatrice pour le géographe que vous êtes?
Oh oui, en partie, oui, oui. La jeunesse libanaise, même syrienne d'ailleurs, n'est pas du tout cette jeunesse qu'on imagine, c'est-à-dire tchadorisée, isolée dans des ghettos, se faisant peur continuellement. Loin de là, c'est une jeunesse qui vit exactement comme la jeunesse occidentale, européenne, avec ses chansons, avec ses stars, avec ses modes, mais c'est parfaitement dans l'air du temps de Beyrouth ou de Damas ou d'ailleurs, oui, tout à fait.
L'air du temps, précisément, il est souvent présenté au prisme des communautés confessionnelles. Bon, alors, est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est une réalité? En tous les cas, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'elle vous paraît pertinente, cette grille de lecture confessionnelle ou communautaire, pour rendre compte des évolutions territoriales au Liban et en Syrie? Michael Davy.
Moi, je suis assez réticent parce que un cliché se construit et ces clichés, enfin le cliché de la fragmentation spatiale à travers une lecture, une grille confessionnelle, est une construction qui remonte au 19e siècle. C'était la façon la plus simple d'identifier les groupes, la façon la plus simple aussi de diviser ou tout bêtement de regarder l'autre avec un A majuscule. Et quand on regarde l'espace, quand on va intimement dans cet espace et qu'on descend dans les échelles les plus grandes, la variable confessionnelle ne devient absolument pas pertinente. Ça fait des jolies cartes que l'on peut télécharger sur Internet, mais quand on est là à faire des enquêtes, absolument pas. La dimension confessionnelle ou religieuse me pose problème, me pose un très gros problème parce que c'est tellement réducteur, tellement réductrice que ça n'a plus de sens à un certain moment.
Fabrice Ballanche, votre sentiment sur sur cette grille de lecture confessionnelle et communautaire?
Bon, moi, la grille communautaire ne pose pas de problème parce que je l'utilise dans mes analyses et je trouve qu'elle est très pertinente pour analyser l'espace syrien tout comme l'espace libanais. Il faut avoir une vision sociale des choses aussi, mais on a des principes de solidarité communautaire qui organisent l'espace, qui organisent le pouvoir et qu'il faut absolument tenir en compte dans nos analyses.
Ça, est-ce que vous pourriez donner Un exemple pour que ça soit...
Un exemple, par exemple, lorsque j'étudiais le découpage administratif en Syrie, vous avez la Syrie qui se dit un État laïque, acommunautaire, etc. Même le mode sunnite, alaouite, druze est banni en Syrie. En fait, on fait la politique de l'autruche parce que ça existe, mais on ne veut pas le voir. Lorsqu'on regarde comment est fait le nouveau découpage administratif syrien à partir même de l'arrivée du Baas au pouvoir, un parti qui se dit laïque,
Quelle année
le Baas 1963 et Hafez al-Assad son coup d'État 1970. Eh bien, à partir de 70, on a un découpage ultra communautaire, un découpage administratif ultra communautaire. Les lignes administratives reposent sur des limites communautaires.
Mais comment ça a été identifié, ça ? Parce que pour pouvoir dire les lignes administratives reposent sur les mêmes lignes que celles des lignes de partage communautaire, ça veut dire que ça a été cartographié à un moment donné ?
C'est un travail que j'ai fait dans ma thèse, que j'ai publié dans mon ouvrage « Les Alaouites, l'espace et le pouvoir ». C'est-à-dire que j'ai pris les cartes, j'ai fait des cartes communautaires de la population par village. Ensuite, j'ai fait également des cartes par tribu au sein de la communauté alaouite. Et j'ai regardé comment le nouveau découpage administratif s'était-il installé là-dessus. Et comme par hasard, vous aviez des limites administratives qui recoupaient exactement des limites communautaires ou tribales.
Alors, oui, Leïla Vignal.
Oui, sur la seule chose que je voulais ajouter, c'est que il y a, ça, selon les échelles auxquelles on travaille, pertinence ou moins de pertinence à introduire le facteur confessionnel et surtout le facteur communautaire pour le cas de la Syrie. Je voulais juste préciser que la solidarité qui peut émaner de l'appartenance au groupe et le soutien qui est apporté par le groupe aux individus est une chose, mais par ailleurs, il y a de nouveaux intérêts qui émergent dans un pays comme en Syrie, du fait de son insertion de plus en plus forte dans la globalisation, dans la mondialisation, les réseaux économiques régionaux. Et ces nouveaux intérêts font émerger de nouveaux acteurs et également de nouvelles stratégies économiques, en l'occurrence, qui vont au-delà de la communauté et au-delà de l'appartenance confessionnelle de plus en plus.
Est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples de ces nouveaux acteurs et de ces nouvelles lignes de force territoriales ?
Je pense en l'occurrence aux nouveaux investisseurs de l'économie syrienne. Beaucoup d'entre eux sont évidemment très proche du pouvoir, mais la distribution des prébendes, des niches, des faveurs, des secteurs, des monopoles, etc., se fait moins sur des lignes communautaires que sur des lignes de clientélisme de fait assez classique, je voulais dire, assez classique et que l'on retrouve dans beaucoup de pays émergents, dans beaucoup de pays en voie de développement.
Michael Davy, vous partagez cette analyse,
ah oui,
et elle vaut aussi pour le Liban.
Oui, pour le Liban, c'est un grand classique. Hein. Déjà, la cartographie des espaces religieux ne correspond pas au découpage administratif et personne ne veut toucher à ce découpage administratif, les qadas ou les muhafazat. Mais il est clair aussi que les solidarités ne reposent pas exclusivement sur des liens religieux. Le Hezbollah finance aussi bien des villages chrétiens que chiite ou Hariri la fondation Hariri qui finance tout le monde. Enfin, il n'y a pas les sunnites entre eux, les chrétiens, enfin guillemets chrétiens entre eux, les chiites entre eux, etc. Non, c'est beaucoup plus fin comme analyse.
Est-ce que c'est une question de est-ce que c'est l'une analyse qui est plus fine que l'autre ou est-ce que vous diriez qu'il y a des superpositions de strates successives?
Non, il y a des strates successives, bien entendu, au niveau du village, bien entendu, il y a une solidarité autour du village, autour de la religion, éventuellement, autour des chefs ce petit ensemble, bien entendu, mais au fur et à mesure qu'il y a un millefeuille de stratégie, forcément, les lignes se brouillent, ce n'est plus aussi clair qu'avant, même si j'ai des doutes que ça existait auparavant.
Ah oui, vous iriez carrément jusque-là.
Ah oui, tout à fait, parce que je prends l'exemple des villes. Dans les villes, ça a toujours été un brassage continuel de religion, de confession, de sous-groupes, de solidarité de quartier, de solidarité politique et autres. Les villes sont vraiment l'anti-exemple de ce découpage.
Lorsque l'on regarde le découpage territorial, l'organisation territoriale, la structure urbaine de la Syrie et du Liban à l'heure actuelle, effectivement, il y a des superpositions de logique. Et malgré tout, la logique confessionnel existe, par exemple, dans le cas de la Syrie. Fabrice Lebalange le sait bien. L'émergence de la région alaouite est complètement liée à la prise de pouvoir des alaouites au sein du Parti Basse. Mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'on voit émerger ? C'est un axe central en Syrie, structuré autour des grandes villes, des grands pôles économiques. Au Liban, un axe littoral structuré par la présence de Beyrouth, mais aussi par l'émergence de centres secondaires économiques. Donc on est dans des logiques. Il ne faut pas oublier que finalement ces pays sont dans la même pulsation mondiale que le reste de l'humanité.
Oui, tout à fait.
Fabrice Balanche, est-ce qu'il n'y a pas aussi des discontinuités qui ne sont pas forcément visibles ou pas forcément matérialisées à l'échelle des quartiers, par exemple ? Enfin, ça fait partie des choses, des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a ce sentiment dans telle ou telle ville syrienne qu'on change de quartier et qu'en changeant de quartier, on change, soit de style de vie, soit de communauté ?
Oui, tout à fait. Lorsque vous passez d'un quartier à l'autre, au Liban ou en Syrie, si vous passez d'Ashrafieh au quartier aujourd'hui de Bachoura, qui est Ashrafieh peuplé par les chrétiens, et Bachoura à 100 mètres de là peuplé par des chiites, vous changez complètement d'ambiance. Les boîtes de nuit de la rue Mono, elles sont à Ashrafieh, elles ne sont pas dans le quartier chiite. Hein, c'est pas le style de vie qui va convenir. Certes, vous avez un brassage dans les villes, vous pouvez avoir quelques quartiers mixtes. Mais enfin, ce qu'on remarque au Liban, mais en Syrie aujourd'hui, c'est la diminution de ces quartiers mixtes au profit de quartiers communautaires. Bon, Leïla a parlé évidemment de ces nouvelles associations d'entrepreneurs, etc., qui sont où il y a un mixage communautaire, tout à fait. Rami Marlouf, l'alaouite, il va travailler avec des sunnites, avec des druzes, avec des chrétiens. Il va travailler avec tout le monde parce que la meilleure association possible, c'est celle qui intègre toutes les communautés, de manière à pouvoir toucher tout le monde. Dans les banques au Liban, c'est pareil. Il faut avoir des employés de toutes les communautés. Mais il n'empêche qu'on a quand même un fondamental. C'est sa propre communauté et qu'en cas de crise, c'est vers elle qu'on se tourne. Et c'est elle qui est opératrice. Et on ne va pas marier forcément ses enfants avec des gens des autres communautés. On va avoir une association d'affaires, mais l'endogamie au niveau des mariages, elle reste très puissante.
Mais est-ce que l'urbanisation n'a pas un peu fait bouger ces lignes-là ? L'urbanisation, y a toujours eu un réseau urbain très important en Syrie et au Liban, mais néanmoins, on a maintenant quand même, en 20 ou 30 ans, l'urbanisation a atteint 75 ou 80% de la population. Enfin, je parle sous votre contrôle. Alors, qu'est-ce que ça induit, cette modification-là, Michael Dilly ?
Ça induit beaucoup de choses. Encore une fois, ça induit le brassage. Maintenant, le cliché qu'on a pour Beyrouth, pour donner un exemple, c'est que Beyrouth Est est chrétienne, Beyrouth Ouest est musulmane. Bon, dans le détail, c'est totalement faux. Oui, certes, il y a des majorités d'un côté ou de l'autre. Je suis entièrement d'accord, comme il y a des quartiers protestants ou catholiques en France, dans les villes. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais ça ne va pas structurer l'espace au point d'en faire des morphologies totalement différentes. Oui, on sent, effectivement, je suis d'accord avec M. Balanche, on sent que quand on est dans un quartier X, ça a un flavor, un goût différent. C'est l'esprit des lieux qui est différent, bien entendu. Mais fondamentalement, il n'y a pas une urbanisation musulmane et une urbanisation chrétienne. Je parle pour le Liban. Quand on va en Syrie, c'est à peine... Si, il y a des marqueurs territoriaux, il y a des marqueurs extérieurs, il y a des marqueurs, ne serait-ce même dans la végétation dans le pays alaouite, qui font que l'on sait très bien si on est dans un village sunnite ou dans un village alaouite ou dans un village chrétien. J'allais dire, c'est peut-être un épiphénomène. Ça ne va pas structurer l'espace au plan où, à part les églises évidemment et les mosquées, ça c'est une banalité, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Alors l'urbanisation va permettre un brassage. Maintenant, je suis d'accord que, évidemment, on préfère sa communauté, les Alsaciens protestants préfèrent rester entre protestants.
Ça, je ne sais pas.
Oui, d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a toujours l'anathème jeté sur la religion de l'autre, quelle que soit la religion. Mais c'est vrai que la Syrie, Algérie, par exemple, est à 80%, peut-être même plus, 90% musulmane. Donc, ne serait-ce que par les apports démographiques, on va voir des concentrations de sunnites beaucoup plus élevées que ce qu'on pouvait voir durant les années 30 ou les années 50 ou les années 60. Au Liban, c'est vrai que la dynamique démographique chiite et l'émigration, d'ailleurs, de tout le monde, que ce soit les chrétiens, y compris les sunnites et les chiites, fait qu'il y a des quartiers qui se clarifient un peu, mais ce n'est absolument pas la norme. La banlieue sud, présentée comme le fief, le bastion du Hezbollah, il y a des maronites qui vivent, il y a des orthodoxes qui vivent, il y a des écoles latines avec des églises catholiques. Enfin, il y a du monde dans Achrafieh, effectivement. Achrafieh est chrétienne, mais il y a une population sunnite, il y a une population chiite de plus en plus grande, notamment la grande bourgeoisie qui investit à Achrafieh. Vous avez tout dans ces villes.
Et il me semble qu'il y a, au contraire, on peut voir également, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à la fois par Fabrice Balanche et Michael Davy, mais je voudrais juste ajouter qu'on peut voir également se former au sein des espaces urbains, qui effectivement sont des espaces, malgré tout, de brassage, même si les communautés peuvent se reformer territorialement, je pense surtout à Damas, à la faveur des solidarités familiales, qui restent évidemment très importantes, et notamment dans un État qui finalement est peu protecteur. Donc les solidarités familiales et du lieu d'origine sont fortes, mais on voit également l'émergence de lieux de mixité. Je pense notamment à tous ces nouveaux lieux de la consommation, tous ces nouveaux lieux qui sont liés à l'ouverture économique, d'une part, qui sont les malls, les quartiers commerciaux, les lieux de loisirs, qui suscitent des déplacements, des mobilités qui transgressent les frontières, à la fois à Beyrouth ou à Damas. Et ce que l'on voit se structurer davantage ou également, c'est finalement des formes de rupture territoriale ou de ségrégation spatiale qui sont qui sont en grande partie structurées finalement par des appartenances de classe le pouvoir d'achat des gens qui ont accès à ces endroits semi-privatisés que sont ces nouveaux lieux de consommation, ces nouveaux quartiers de loisirs, mais qui sont des espaces de mixité. Je pense également à la banlieue, à la corniche de Beyrouth, qui lui est un espace public non payant, qui est aussi un espace qui a émergé de la guerre comme un espace de mixité. Donc la ville garde malgré tout cette fonction de brassage.
Alors il est 14h17, nous sommes sur France Culture dans l'émission de géographie Planète Terre, en compagnie de Leïla Vignal qui est avec nous au téléphone depuis Oxford au Royaume-Uni, Fabrice Balanche, maître de conférence à Lyon 2, et Michael Davy, professeur à l'université François Rabelais de Tours. Et nous discutons des géographies de la Syrie, et du Liban. Alors du point de vue démographique, vous l'avez évoqué à l'instant, et également du point de vue économique. Quelles sont les évolutions majeures, Fabrice Balanche, et comment elles se répercutent sur l'organisation territoriale ?
D'un point de vue économique, on a un Liban qui est sorti de la guerre civile il y a 20 ans, qui espérait retrouver sa place d'avant-guerre au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'interface entre l'Europe et les pays du Golfe. Or, aujourd'hui, il est complètement dépassé par les pays du Golfe, par Dubaï notamment. On a une Syrie qui était fermée jusqu'en 1990 du fait de son appartenance d'allié stratégique de l'Union soviétique, et maintenant qui a une ouverture économique. Donc, on a en gros un modèle libanais, un modèle syrien qui se rejoignent du point de vue économique. Seulement, la bureaucratie en Syrie bloque quand même pas mal d'avancées. Alors on a des nouveaux malls commerciaux, des choses comme ça, mais ça reste assez marginal. Ça reste quand même Damas, Alep, ça reste confiné à une petite minorité de la population. La masse de la population syrienne, elle ne profite pas de la libéralisation économique et de l'ouverture. Vous avez encore 50% des gens qui vivent à la campagne de manière traditionnelle, un poids du secteur public absolument écrasant. On n'investit pas énormément en Syrie. Quant au Liban, les problèmes politiques, les attaques israéliennes régulières font que là aussi, on n'a pas un développement économique très, très, très important.
Leïla Vignal, vous parleriez de dualisme territorial ou de
Oui, on on peut tout à fait parler de dualisme territorial. Bon, il faut bien effectivement relever le fait que ce sont des économies, ce sont des pays qui sont dans une nouvelle phase depuis les années 90, et pour parler de la Syrie, depuis les années 2000 surtout, avec un processus de libéralisation économique qui transforme beaucoup les choses. On voit les paysages des villes de Damas, effectivement, se transformer avec l'ouverture de banques privées, des malls, des quartiers commerciaux, des quartiers de résidences privées, l'explosion du téléphone portable, l'explosion des importations de nouveaux produits, tout ça change le paysage de Damas. Ce que l'on voit beaucoup, effectivement, c'est une transformation territoriale qui favorise les métropoles. Donc Damas et Beyrouth entrent, finalement, rejoignent les villes du monde dans ce processus de métropolisation qui favorise le grand centre urbain et économique du pays en connexion avec les réseaux économiques régionaux ou globaux. Ce qui conduit effectivement à un territoire à double vitesse, si je puis dire.
Michael David, deux vitesses seulement ?
Enfin, disons deux grandes vitesses. Il y a quand même, dans toutes ces villes, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, il y a effectivement des quartiers qui surfent sur la mondialisation, sur la globalisation, qui sont des lieux de consommation de tout ce que produit le monde. Et puis, il y a tout le reste de la ville qui, justement, n'a pas pu rattraper le train en marche ou bien a été carrément largué, notamment à travers les crises économiques et financières. Et là, on a des petites poches toutes petites de cette grande bourgeoisie, appelons ça comme ça, qui vivent très bien, qui vivent de façon presque ostentatoire, et tout autour des quartiers de petits bourgeois, à peine petits, hein, des fois ils sont carrément dans la misère, qui annoncent les crises à venir, qui annoncent justement les violences qui vont avoir lieu dans les années qui suivent.
La double vitesse peut également s'exprimer dans le fait que tous les indicateurs macroéconomiques de croissance qui ont été ceux du Liban et de la Syrie au cours des récentes années avec des hauts et des bas prennent en compte finalement l'économie formelle et ignorent totalement l'économie informelle qui pour la Syrie représente plus de la moitié de la population active. Et ça, c'est un énorme problème que rencontrent ces pays et ces territoires. Que faire de tous ces territoires qui ne sont pas intégrés et qui sont pourtant au cœur de la production et de la pauvre production de ces pays.
Fabrice Balanche, est-ce que ça rejoint les résultats de vos enquêtes selon lesquelles il y a, me disiez-vous, jusqu'à 60% d'habitations informelles à Damas ou à Alep, par exemple ?
Alors, sur l'agglomération d'Alep, on est en gros à 60% d'habitat informel. À Damas, on doit être à 40%.
Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs exactement habitat informel ? C'est l'équivalent d'un bidonville en Amérique latine ou c'est
ça,
pas la même chose ?
On ne peut pas dire ça, c'est de l'habitat illégal. Alors, bon, c'est très complexe l'habitat illégal. Hein. Il y a des maisons en dur, normales, qui sont construites sur des terres agricoles et donc qui sont illégales. Et puis après, vous avez des maisons de briquet de broc, effectivement illégales. Ça, donc, ça, c'est un énorme problème parce que l'État syrien...
C'est énorme, 60%.
Appuie 60%, c'est pas le pire. Si vous allez en Djezire, des villes comme Raqqa ou Hasakeh, c'est 75% de l'habitat.
C'est lié à une croissance démographique importante parce que j'avais cru comprendre que cette croissance démographique syrienne avait plutôt ralenti ces dernières années, mais peut-être qu'elle reste importante néanmoins.
On est passé de 3% par an, c'est-à-dire un doublement de la population tous les 20 ans, à 2,5% par an, ce qui fait un doublement tous les 30 ans. Alors certes, ça régresse, mais ça reste encore énorme. Pas un pays qui crée des emplois capables d'absorber toute cette population.
Est-ce que ça veut dire, Michael Davy, qu'il y a un lien entre ce phénomène démographique, d'urbanisation peut-être un peu qui a du mal à être accompagné par les pouvoirs publics, et les phénomènes migratoires ?
Oui, enfin, si on se limite au cas strictement libanais, il faut bien comprendre que l'État n'existe pas. Ce n'est pas l'État qui planifie, ce n'est pas l'État qui se projette dans l'avenir. Et ce n'est pas l'État qui essaie de trouver des solutions. La Syrie, c'est quand même un peu plus nuancé. Il y a quand même une volonté, avec ses dérives bien entendu, mais il y a certainement une volonté d'aménagement du territoire, une volonté de contrôler un peu la situation. Alors, les migrations, oui. Alors, il y a des migrations, il y a toute la grille possible de migrations, des migrations forcées. Il suffit qu'il y ait une guerre dans le coin pour que 100 000, 200 000, 300 000 personnes se déplacent en une journée. C'était le cas en 2000. 2006 au Liban, au sud Liban. Mais vous avez également cette lente hémorragie de la population, y compris syrienne, qui essaye de trouver de quoi survivre ailleurs, notamment dans les pays du Golfe, ou bien carrément l'émigration définitive, je pense au Canada, qui est en train d'absorber finalement la matière grise syrienne qui aurait pu prendre la relève et qui aurait pu dynamiser un peu plus ce pays. Donc plusieurs flux et à l'intérieur des pays, évidemment, un va-et-vient qui est extraordinaire.
Fabrice Ballanche, cette émigration des élites ou de la matière grise, entre guillemets, est-ce que c'est lié au régime politique ?
Tout à fait. C'est lié au régime politique en Syrie. C'est lié à l'absence de perspective et également au régime politique au Liban qui fait fuir les élites. Toute cette population qui pourrait être justement facteur de modernisation au sens, je dirais, occidental du terme de ces pays est en train de partir. Laisse la place donc à soit des hommes d'affaires ou des chefs communautaires et une population paupérisée et pas très éduquée. Donc si vous rajoutez les clivages territoriaux de la mondialisation par là-dessus, ça donne un cocktail explosif.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais il faut aussi prendre en compte, finalement, le flux majeur d'émigration temporaire. Il y a beaucoup de migrations temporaires de travail vers le Golfe, comme le précisait Michael Davy, qui sont finalement des migrations, donc des gens qui partent quelques années travailler dans le Golfe et qui reviennent. Les Syriens fournissent une main-d'œuvre généralement assez formée au pays du Golfe. Ils occupent des emplois de construction, mais également des emplois intermédiaires. Et finalement, quand ils reviennent dans le pays, ils ont acquis des compétences qu'ils n'avaient pas auparavant et qui, peut-être, la Syrie commençant à développer de nouveaux secteurs économiques qui pourront peut-être être réinvestis localement du fait de l'expansion du secteur privé et de nouvelles opportunités peut-être d'emploi.
Alors, Léla Vignal, tout à l'heure, vous introduisiez le thème de la mondialisation. On a réussi pendant 25 minutes à parler du Liban et de la Syrie sans parler, disons, de géopolitique et de l'influence que peuvent avoir les puissances régionales ou internationales. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que, disons, les évolutions locales, territoriales que vous nous avez expliquées depuis le début de cette émission peuvent être comprises sans lien ou en tous les cas sans résonance avec, des échelles qui se situent donc au niveau international ou de la région du Moyen-Orient dans son ensemble, Fabrice Ballanche?
Oui, on ne peut pas imaginer ça sans les relations internationales, puisque le Liban, la Syrie sont dépendants du conflit israélo-arabe qui conditionne beaucoup de choses. Comme savoir qu'aujourd'hui que la Syrie est quand même sous un embargo partiel de la part des États-Unis, alors c'est ce qui limite aussi son développement économique. Quant au Liban, il y a les problèmes du rapport avec Israël, du Hezbollah lié à l'Iran, des sunnites de Hariri liés à l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Vous avez une mini-guerre froide dans la région, on ne peut pas y échapper.
Mais est-ce que ça joue sur les dynamiques territoriales? Et si oui, comment?
Est-ce
qu'il y a un lien entre les deux?
Ça joue sur les dynamiques territoriales, tout à fait, puisque vous avez une partie du Liban où il ne faut pas investir, parce que vous ne savez jamais ce qui peut s'y passer, tout le sud du Liban, par exemple. Le Liban a basé son économie sur le tourisme et la finance, mais enfin, le tourisme dans une région où vous avez des attaques régulières, c'est assez fluctuant. Quant à la Syrie, son comportement politique fait qu'elle peut se mettre à dos les Saoudiens et donc les travailleurs syriens qui travaillent en Arabie Saoudite, ils peuvent être renvoyés comme régulièrement les Yéménites le sont dans leur pays. Vous avez les Émirats qui ont renvoyé une partie des travailleurs chiites vers le Liban, ça a fait tout un scandale dernièrement. On ne peut pas ignorer ces
politiques. Il y a des territoires qui sont fragilisés, comme effectivement, ou qui deviennent des zones de non-investissement, comme la frontière avec la Syrie et le Liban, qui a été un temps un corridor de prospérité du fait des Syriens qui allaient acheter au Liban lorsque la Syrie était encore très fermée. Mais ce sont aussi des pays qui sont très soumis aux conflits locaux. Il y a plus d'un million de réfugiés irakiens à Damas depuis 2004. Qui effectivement viennent consommer et qui sont venus dépenser une partie de leurs économies en vivant en Syrie, mais qui ont également contribué à un à surcharger les infrastructures locales, je pense à la santé, aux écoles dans lesquelles les enfants ont été scolarisés, à faire augmenter les loyers, etc. Donc, ce qui a créé également des frictions avec les populations locales. Donc, ce sont des pays qui sont très intimement connectés à leur environnement régional. Oui.
Bon, oui, tout à fait. Bah, écoutez, l'émission touche à sa fin, hein, puisque malheureusement, le temps passe vite, trop vite. Donc, Leïla Vignal, Fabrice Balanche, Michael Davy, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. On va donc se quitter sur une autre chanson, Ouloulou, de ce disque Arabologie de Yaz, donc de Yasmine Hamdam et de Mirwaez. C'était donc Planète Terre, consacrée cette semaine à géographie au pluriel de la Syrie et du Liban. Une émission donc en association avec la revue Moyen-Orient actuellement en kiosque et dans lequel, Fabrice Balanche, vous avez publié un article. Alors sur le site web franceculture.com, à la page Planète Terre préparée par Solène Saleur et Catherine Madure, vous trouverez des liens vers, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas de nombreux articles de nos invités, Michael Davy, Fabrice Balanche et également Leïla Vignal. La semaine prochaine, Planète Terre fera le point sur la géographie politique avec Stéphane Rosière et Frédéric Ancel.